BFM Politique, comme chaque semaine, votre rendez-vous à la mi-journée, le dimanche, sur BFM TV, avec Emmanuel Le Chip, qui représente BFM Business ce midi. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
J'en profite d'ailleurs pour préciser que cette émission est à suivre également sur BFM Business. Nous sommes aussi en partenariat avec Le Parisien. Bonjour Henri Vernet.
Bonjour.
Bienvenue. Notre invité est la ministre de la Transition écologique. Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer avec une question d'actualité. Vous avez vu sans doute ces images, cette vidéo d'un passage à tabac abominable dans le 15e arrondissement, ce jeune adolescent, Youri, qui a fêté ses 15 ans en soins intensifs à l'hôpital des enfants Necker à Paris. Il s'est réveillé hier soir, nous a dit sa maman. Quelle est votre réaction ?
Déjà, je suis heureuse de savoir qu'il s'est réveillé et qu'il va peut-être s'en sortir. Et en tout cas, je souhaite à lui tous mes voeux de bon rétablissement. Et puis aussi, je pense à sa famille et je pense à tout le monde. Moi, j'ai vu les images qui sont absolument insoutenables, qui sont d'une violence terrible. Et je sais que là, tout le monde fait tout pour retrouver les auteurs de ces violences et pour qu'ils soient sévèrement punis par la justice.
Au-delà de la ministre de la Transition écologique, je m'adresse aussi à les députés, enfin à l'élu local que vous êtes depuis un long moment. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impuissance quand on est élu local face à ces types de violences qui se répètent, malgré les vidéosurveillances, malgré les rondes de police, malgré les moyens ?
Il y a toujours une part de violence comme ça qui est spontanée et qu'on peut pas anticiper. Mais tout le travail qui est fait aussi pour recréer du lien social, pour redonner aussi des perspectives aux gens, et puis le travail de sécurité des forces de police. Là, on renforce le nombre de forces de police sur le terrain pour mieux connaître aussi les populations, pour qu'il y ait plus d'interactions. C'est un travail de fond qu'on fait et qui doit permettre d'améliorer les choses. Après des événements d'ultra-violence, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne pourra jamais complètement éradiquer. Mais ce qu'il faut, c'est que systématiquement, il y ait une sanction, que l'État montre que l'État de droit est là et qu'il n'y a pas d'impunité.
Alors, l'actualité, évidemment, elle est marquée pour nous tous par la pandémie depuis un an. Nous en parlions en rantaine il y a quelques instants. Hier, ça faisait un an, jour pour jour, que la ville de Wuhan se confinait. Le confinement en France, qui est devenu un sujet permanent de conversation pour nos compatriotes, l'imminence d'un nouveau confinement, et là, nous dit-on, en tout cas, est-ce que vous avez des informations ? Nos confrères du JDD nous disent c'est à venir. Mercredi, Emmanuel Macron pourrait parler pour l'annoncer. Que pouvez-vous nous dire ?
Et moi, je n'ai pas plus d'informations que ça à ce stade.
Vous en avez plus que nous, je pense, en tout cas.
Ce que je peux vous dire, c'est que nous, ce qu'on regarde au gouvernement, c'est l'évolution de la pandémie. Ce sont les nouveaux variants. Ce que donne aussi aujourd'hui le couvre-feu à partir de 18h, on a dit qu'on attendrait d'avoir un petit retour sur l'efficacité de ce couvre-feu avant de prendre des décisions. Donc step by step, j'ai envie de dire, mais l'important c'est que nous regardons ce qui se passe et nous adaptons au mieux les mesures.
Emmanuel Macron va parler ou pas ?
J'ai pas d'informations à ce stade là-dessus.
Et est-ce que, quelles que soient les mesures décidées, de toute façon, les écoles, le lycée resteront ouverts ou pas ?
L'école, c'est un des points les plus importants que nous voulons garder ouvert parce qu'on sent que pour les enfants, que pour même leur santé physique et mentale, on a besoin de garder les écoles ouvertes. Donc, encore une fois, à ce stade, je ne peux pas vous dire si telle ou telle mesure sera prise, parce qu'on veut prendre les mesures les plus adaptées possibles. Mais l'école fait partie de nos priorités.
Et quand vous dites l'école, c'est l'école du primaire au lycée.
Oui, mais ça fait partie de nos priorités. Après, encore une fois, on doit adapter à la situation à chaque fois.
Barbara Pompili, on a passé la barre des 1 million de vaccinés, avec un petit peu d'avance d'ailleurs sur le temps intermédiaire, puisque c'était normalement prévu pour fin janvier. Et aujourd'hui, on voit clairement que la crainte, c'est l'approvisionnement en vaccins. Alors pour le coup, on ne peut pas incriminer le gouvernement français, mais est-ce que ce n'est pas au niveau de l'Europe entière, la stratégie de l'Union européenne qui là est questionnée ? Est-ce qu'on n'a pas manqué de réactivité dans cette grande commande européenne par rapport à d'autres pays ?
Écoutez, ça fait des mois que nous travaillons et que nous travaillons en lien avec l'Union européenne. Agnès Pannier-Runacher est très investie sur le sujet pour pouvoir faire en sorte qu'on reçoive les vaccins au fur et à mesure. Mais de toute façon, il y a une question de production de vaccins. Là, on essaye d'être le plus efficace possible, d'avoir le maximum de vaccins possible, avec une répartition au niveau européen, évidemment, en fonction des populations. L'important, là, c'est de garder une stratégie qui est une stratégie de vacciner d'abord les plus fragiles, le plus possible, et en fonction des arrivées des vaccins. Donc, on s'adapte. Mais je crois que... on ne doit pas oublier que nous avons quand même accès à des vaccins dans un temps historiquement record. dans des bonnes conditions, avec toutes les mesures de sécurité qui ont été prises, avec les autorités de santé qui vérifient que tout ça se fait dans des bonnes règles. Je crois que quand on aura un petit peu de recul, on se rendra compte que la politique vaccinale sur la Covid-19 a été une des plus efficaces et les plus rapides de l'histoire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en n'étant pas spécialiste.
Dans votre famille politique, en tout cas d'origine, les écolos, souvent, il y a eu un courant assez important anti-vaccin. Aujourd'hui, ils ont changé. On a même entendu Yannick Jadot être très, très pro-vaccin récemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les esprits, les mentalités ont changé chez les écolos?
Je ne vais, pas porter la parole de certains écologistes. Je peux vous dire que je suis écologiste et qu'en tant qu'écologiste, j'ai toujours été très, très pro-vaccin parce que je me rends compte, encore une fois en regardant l'histoire, que grâce au vaccin, on a quand même réussi à améliorer considérablement la santé.
Vous, oui, mais cette famille politique.
Dans cette famille politique, il y a des différences d'appréciation, mais qui regroupent aussi ce que peuvent ressentir une partie de la population. Ce que demandent ces personnes-là, de ce que je comprends, c'est d'être rassurées sur les méthodes, sur les procédures, pour que toutes les précautions soient prises. Et ça, c'est normal qu'on puisse les rassurer là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les mesures de précaution, les autorités de santé, tout ça a été fait avec des procédures qui ont été respectées et qui sont des procédures qui, après, font que le vaccin, après, il y a toujours quelques effets indésirables, mais qui sont les effets indésirables inhérents à tout vaccin.
J'étais en train de regarder votre masque, Barbara Pompili, il est posé sur le bureau devant vous. Alors, il n'est manifestement pas artisanal, en tout cas, je ne suis pas expert mais de ce que je vois, mais il est en tissu. Pourquoi je vous parle de ça? Évidemment, vous voyez bien, le gouvernement qui déconseille, c'est même plus que ça, qui menace même de sanctions ceux des Français qui porteraient des masques artisanaux pour se protéger de la coronavirus, alors que, bon, dans un premier temps, on leur a demandé aux Français d'en fabriquer. Mm-hmm. Sauf que le problème, c'est que ça pollue, les masques chirurgicaux. Ça n'est pas un sujet complètement neutre. Il y en a beaucoup, des millions et des millions et des millions en France.
Oui.
Et c'est un sujet, pour vous, est-ce que c'en est un particulier ?
Oui, en tant que ministre de la Transition écologique, je fais attention à ces choses-là. La question des masques jetables est un vrai problème parce qu'en plus, ils ont des particules de plastique et on a 50 millions de masques qui sont jetés. Donc, on voit que cette question du traitement des masques doit se faire. Il y a tout un processus qui est prévu dans les hôpitaux. On les récupère, tout ça n'est pas jeté, mais forcément quand les citoyens les jettent, c'est un sujet. Donc on a lancé un certain nombre d'études pour voir comment on pouvait faire pour récupérer ces masques. Et puis par ailleurs, on continue à inciter la population à utiliser les masques en tissu, qui sont les masques dit industriel. Donc effectivement, les masques qu'on fabrique chez soi, on se rend compte que l'efficacité n'est pas optimale. Donc c'est mieux d'utiliser des masques dits effectivement un peu industriels comme ceux-là, mais ce sont des masques en tissu qui sont tout à fait, a priori aujourd'hui, conseillés pour tout le monde.
L'objectif c'est quoi? C'est qu'il y ait des bornes, en gros, comme on jette ses piles et ses ampoules, où l'on puisse jeter ses masques. J'en ai vu dans Paris, dans certains supermarchés. Vous voudriez qu'il y ait ça un peu partout? Il y aurait une filière spécifique de recyclage de ce type de ces masques?
Je ne sais pas si on doit mettre en place une filière spécifique pérenne, puisque ça demande après des installations pour traiter ces masques, pour les recycler, etc. Et des installations, ça demande des investissements sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, on va avoir besoin de masques chirurgicaux au quotidien? On peut tous espérer que non. Et donc ça veut dire beaucoup d'investissements pour finalement après que ça ne serve plus. Donc on essaye de voir aussi comment on peut rattacher ça à ce qui est déjà fait pour les hôpitaux ou là pour tous les établissements médicaux. On a des filières de récupération des masques et puis de tous ces matériaux-là. C'est un peu compliqué, on prend le temps, mais on est bien sûr en train de s'en occuper.
Alors, l'émergence de cette maladie, de cette pandémie, elle dit aussi quelque chose, Barbara Pompili, de notre relation à la nature, à la biodiversité, dont le déclin, en fait, a priori, accélère l'apparition de ces virus, accélère l'apparition de ces pandémies. L'OMS est extrêmement alarmiste sur ce qui pourrait se passer dans les années à venir. C'est un enjeu qui est considérable. Vous le prenez par quel bout?
Alors ça, typiquement, moi, ça fait partie de mon boulot. C'est comme ça que je le vois. Olivier Véran, le Premier ministre, s'occupe là de la gestion de crise et de tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Moi, j'essaye de voir comment on peut faire pour anticiper et pour éviter qu'à l'avenir, on passe notre temps malheureusement à affronter pandémie sur pandémie et puis à devoir courir après le vaccin du prochain virus. On a des documents scientifiques maintenant qui nous montrent que plus on fait des atteintes à la biodiversité, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de déforestation, par exemple, ou des trafics d'espèces, eh bien, on met en contact des milieux qui n'étaient pas en contact avant. Et donc, l'homme se retrouve en contact avec des milieux qui, avant, vivaient séparément, et où il y avait effectivement des virus, des choses comme ça. Tout était séparé, donc ça se passait bien. Là, le fait qu'on fasse tous se rencontrer, c'est ça qui entraîne des pandémies malheureusement, peut-être la situation d'aujourd'hui, même si l'origine de la Covid-19, on n'est pas encore sûr à 100%. Mais en tout cas...
Bah, selon toute vraisemblance, ça reste une zoonose, hein, c'est-à-dire c'est une maladie qui est passée d'un animal à l'homme. Hein.
C'est très probable, mais je reste prudente parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Mais si ce n'est pas sur la Covid-19, on en aura d'autres qui ont ces origines-là. Donc ce qu'on doit faire, nous tous... c'est essayer d'anticiper pour éviter de continuer ce genre de bêtises. Une plateforme qui s'appelle l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Ce sont des scientifiques ont fait un rapport qui est très clair là-dessus et qui nous explique qu'on risque de rentrer dans l'ère des pandémies si on continue à faire n'importe quoi sur la biodiversité. Donc mon travail en tant que ministre de la Transition écologique, c'est de mobiliser ici, au niveau français, pour qu'on évite, nous, d'avoir des politiques qui favorisent la déforestation sur nos importations, sur les accords internationaux que nous faisons, et puis en lien aussi avec tous les partenaires des autres pays pour limiter au maximum ces atteintes à la biodiversité qui sont des erreurs absolues et qui risquent de nous entraîner.
Au-delà de ça, Barbara Pompili, on a vu que, alors puisqu'il faut bien chercher quelques effets positifs à cette crise sanitaire, c'est la façon dont la planète avait respiré pendant les confinements dans quasiment le monde entier. Alors je ne sais pas vous quels sont les phénomènes les plus spectaculaires que vous avez retenus, mais il y a une double lecture qu'on peut faire à ça. C'est un, la lecture pessimiste, en disant, mais attendez, pour réussir à améliorer finalement notre environnement, on a été contraint de faire des efforts qui sont insupportables. Ou sinon, il y a la lecture optimiste qui consiste à dire, mais regardez, quand on change nos comportements, c'est efficace. Et donc, le côté positif, c'est est-ce que finalement, on n'a pas gagné peut-être 5, 10, 15 ans dans le combat contre le réchauffement climatique à cause de cette pandémie?
Je crois que vous avez raison sur le fait que la crise est en train de changer les choses. On le voit notamment, par exemple, les gens prennent beaucoup plus leur vélo qu'avant. Là, grâce justement au coup de pouce vélo, on a 1 million de personnes qui ont réparé leur vélo. Enfin, c'était... Donc il y a une prise de conscience. La prise de conscience, pour moi, c'est quelque chose qui permet de changer les choses et qui permet de passer à l'action. Après, oui, la planète a mieux respiré. On a eu des baisses d'émissions de gaz à effet de serre assez notables dans un certain nombre d'endroits, même si ce n'était pas partout. Mais à quel prix ? C'est-à-dire qu'au prix d'un arrêt de l'économie, au prix d'une crise économique lourde, etc. Donc, ce que j'essaye de montrer, et ce sur quoi je suis en train de travailler, c'est de faire en sorte que notre pays soit plus écologique dans 5 ans qu'il ne l'était avant. Et pour qu'il soit plus écologique, c'est justement de dire, regardez, quand on fait des efforts, on peut réussir à vivre mieux. Donc, voir ce qui a été bien. On a retrouvé un lien avec la nature, on a senti le bonheur d'avoir un air plus pur. Eh bien, on peut avoir une économie qui permette ça. Simplement, il faut qu'elle évolue, l'économie. Et elle est en train d'évoluer. Il y a encore quelques années, on m'expliquait que les véhicules électriques, les véhicules hybrides, oh là là, mais ça allait prendre très très longtemps. Les constructeurs nous expliquaient qu'on aurait 5% du parc européen qui serait à l'électrique ou à l'hybride à 2030. Là, on est 10 ans plus tôt, on est déjà à 10%, c'est-à-dire qu'on a doublé leur espérance dans 10 ans, déjà maintenant. Ça prouve que les choses bougent et qu'il suffit tout simplement de mettre les investissements là où il faut. C'est ce qu'on fait avec le plan de relance. Moi, quand j'ai 30 milliards avec le plan de relance, c'est justement pour investir, pour décarboner l'économie. Et surtout, ce que je veux, moi, c'est redonner un petit peu d'espoir à tout le monde en disant... Cet enjeu du réchauffement climatique est un enjeu qui peut sembler assez menaçant. Et c'est vrai que les conséquences qu'on voit avec les sécheresses, les inondations,
c'est très tangible pour tout le monde. Hein.
C'est très tangible maintenant pour tout le monde. Mais cet enjeu, on doit le prendre comme un défi et on doit le prendre aussi comme une promesse d'avenir si on sait prendre ce virage. Ça fait peur à certaines personnes. Moi, j'ai des gens dans mon bureau qui me disent « mais vous ne vous rendez pas compte ». Je leur dis « si vous ne prenez pas le virage, là vous allez avoir des problèmes. Mais si vous le prenez, on peut vraiment... créer de l'emploi, recréer du développement économique et ressentir cet air pur. Voilà ce que j'essaye de faire. Et c'est dur, mais si on y arrive, on aura relevé un beau défi pour nos enfants. Et quelque part, cette pandémie, elle aura pu aussi servir à ça.
Cela dit, le procès de l'affaire du siècle, qui est en cours, on attend le jugement, a souligné les retards de la France en la matière. Donc qu'est-ce que vous répondez à ça? Le calendrier sur lequel s'est pourtant engagé le gouvernement lui-même n'est pas tenu par vous, par votre gouvernement?
Alors, on est en train de répondre. Vous savez qu'on a eu le Conseil d'État qui nous a demandé d'expliquer comment on allait faire. Ouais. On a une réponse qu'on va apporter au début de semaine prochaine pour expliquer comment on fait. C'est pareil.
Vous allez faire comment, d'ailleurs, là?
Ah ben, comment on fait? On a en fait plusieurs mesures. C'est comme tout, il n'y a pas une mesure magique. Il y a plein de mesures. Le plan de relance, les investissements dont je vous ai parlé. La loi climat et résilience, qui est la loi qui est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui est aussi une brique pour cela. Et puis, il y a aussi plein de mesures qui ne sont pas forcément dans la loi, mais qui sont des petites choses qui doivent débloquer des situations. Par exemple, on veut développer le véhicule électrique. On a mis plein d'aides en place pour que ce soit moins cher pour les gens. Et notamment aussi des primes à la conversion, des bonus pour acheter des véhicules d'occasion, ce qui est moins cher, donc pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais maintenant, on me dit, oui, mais moi, je suis contente, je voudrais acheter un véhicule électrique.
Mais où sont les bornes?
Mais où sont les bornes?
Oui.
Exactement. Donc là, le travail qu'on fait, ce n'est pas du travail, ce n'est pas une loi. On fait un énorme travail avec les constructeurs, avec les distributeurs, avec les collectivités, pour mettre en place le plus de bornes possible. On a un plan avec Jean-Baptiste Djebbari de 100 000 bornes. On écoute aussi des personnes qui nous disent « Bah oui, mais alors là, on ne peut pas payer avec la carte bleue, il faut acheter la carte, machin, à chaque fois, c'est compliqué. » Donc on essaie de trouver là des systèmes pour que tout le monde puisse payer en carte bleue. C'est du travail de fourmi, vous voyez, mais qui permet de lever des obstacles qui sont des obstacles de la vie quotidienne et qui, quand ils sont levés, permettent d'avancer beaucoup plus vite.
Une prime sur les véhicules d'occasion, évidemment, c'est mieux pour les Français, mais... Est-ce que vous avez en tête un horizon ou un idéal pour que le prix des véhicules électriques finisse par s'aligner peu ou prou sur le prix des autres véhicules? Parce qu'aujourd'hui, un véhicule électrique, c'est extrêmement cher. Vous le savez mieux que personne.
C'est combien pour vous, un véhicule électrique, dites-moi?
D'une marque française de petite taille, les premiers prix, c'est autour de 20 000 euros.
Oui, alors,
on est d'accord.
Je vous encourage à aller voir justement sur des véhicules d'occasion. Ouais. Aujourd'hui, ce genre de véhicule de petite taille français, vous en trouvez à 7 000 euros.
7000 non mais d'occasion, je suis d'accord. Non mais Barbara Pompili, ma question elle porte sur le neuf. C'est que vous savez qu'aujourd'hui un véhicule essence neuf, c'est 8000 euros un véhicule
mais
neuf.
Mais les gens qui achètent des véhicules neufs aujourd'hui en France, ce sont les gens qui ont un certain revenu et un certain âge. La majorité des achats sont des achats qui vont plutôt sur de l'occasion. Donc le fait qu'on puisse donner des primes aussi sur l'occasion, c'est très important parce qu'on ouvre le marché à des gens. Et quand là, vous avez des véhicules d'occasion électriques qui sont aux alentours de 7 000, 8 000 euros, avec les primes, vous voyez que vous donnez accès à tout le monde. Et n'oubliez pas qu'après...
Je ne vous ai pas dit que ce n'était pas bien. Je vous demandais si vous aviez un horizon.
Quand on recharge, on n'a plus à payer le prix de l'essence. Là, on paye le coût d'une recharge, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, loin de là. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de faire là, en passant sur l'occasion, c'est vraiment pour accentuer ce passage électrique.
Et en fait, ma question, c'est pourquoi ça coûte aussi cher de fabriquer pour des choses concrètement? Parce que les gens qui nous regardent ne savent pas forcément. Pourquoi ça coûte beaucoup plus cher de fabriquer un véhicule électrique qu'un véhicule à essence ou diesel?
D'abord, parce que quand on est au début, c'est toujours plus compliqué que quand on a une filière qui est une filière mature. C'est la même chose pour toutes les filières émergentes. Après, il y a aussi des composants, qui sont des composants qu'on doit aller chercher. La question des batteries est une question qui est problématique pour nous, et d'ailleurs on a un gros plan batterie dans le plan de relance pour que les batteries soient fabriquées en France, pour qu'on soit moins dépendant de nos partenaires et notamment des Chinois, parce qu'on a aussi une question de stratégie d'autonomie économique de notre pays.
Justement, en parlant d'électricité,
voilà, est-ce qu'on va manquer d'électricité cet hiver? Il y a déjà eu des alertes, et dans ce cas-là, si c'est le cas, s'il y a un risque de manque, comment fait-on? On pousse les centrales thermiques, voire la centrale à charbon, on risque de polluer davantage?
Oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur le sujet.
Alors dites-nous.
D'abord, je tiens à vraiment à rassurer nos concitoyens. Les choses sont bien en main. On travaille main dans la main avec les producteurs, les distributeurs pour faire en sorte qu'on ne manque pas d'électricité. On a des systèmes d'alerte quand il y a une pointe électrique, c'est-à-dire quand tout le monde se met à utiliser...
À recharger sa voiture.
pas encore, mais à utiliser sa machine à laver ou à faire démarrer ses appareils électriques en même temps. Et d'ailleurs, il y a eu une fois où on a fait une annonce en disant « Faites attention, si vous pouviez retarder votre machine », ça a bien marché.
Donc il y aura de l'électricité si on n'en consomme pas.
Non, mais tout le monde doit faire des efforts. À un moment, le fait de gaspiller n'importe quoi, notre énergie, ça n'est pas possible. Après, on a eu la crise Covid qui a fait que nos centrales nucléaires qui doivent être arrêtées régulièrement, alors les réacteurs doivent être arrêtés pour recharger du combustible ou pour faire de l'entretien, il y a tout un programme qui est étalé sur l'année et qui est étalé plutôt sur les mois où il fait plus doux, quand on en a moins besoin. Il s'avère que là, les mois où il faisait plus doux, c'était les mois où on a eu du confinement. Donc on a dû retarder un petit peu et décaler les calendriers. Décaler les calendriers, ça a entraîné qu'on a plus de réacteurs arrêtés que ce qu'on aurait dû. Donc, comme on est très dépendant de l'énergie nucléaire, puisque c'est 70% de notre électricité, forcément, là, ça fait qu'on a un peu plus de tension, mais qu'on a réussi à gérer parce qu'on a vraiment une bonne organisation dans ce pays, il faut aussi se le dire. Et donc, le recours, comme vous le dites, à des importations ou le recours à des centrales à charbon, en fait, quand vous regardez les chiffres, même cette année, on a des chiffres qui sont bien inférieurs aux années précédentes. On baisse de plus en plus notre recours aux centrales à charbon.
Donc, il y aura du charbon, mais moins.
Mais énormément moins. En fait, il y en a encore moins que les années précédentes.
Mais l'objectif, c'était pas du tout.
Et puis, à terme, vous le savez, on va arrêter toutes les centrales à charbon en France.
Ça, à terme, c'est quand ?
Ah ben, c'était d'ici la fin du quinquennat.
Ça, c'est maintenu.
C'est une annonce qui a été faite par le président de la République, qui est maintenue, parce qu'à côté de ça, parallèlement, on investit énormément sur les énergies renouvelables. On a encore annoncé hier qu'on allait créer... Premier ministre a annoncé hier qu'on allait créer un parc au large d'Oléron, un parc d'éolien offshore. Donc, toute la procédure que nous avons mise en place, qui est de programmation de développement de nos énergies renouvelables, de baisse de la part du nucléaire, tout ça est programmé. C'est pas des choses
en même temps.
Complètement, comment dire, qui nous arrivent comme ça. C'est programmé.
Mais Barbara Pompili, dans tout ce que vous dites, en fait, tout nous conduit vers un recours plus important au nucléaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que la voiture électrique, son bilan énergétique, son bilan, et puis son bilan carbone surtout, ne dépend quasiment que de la façon dont est produite l'électricité et qu'utilisent ces voitures électriques. Donc on se dit, mais enfin, le nucléaire fondamental. Et donc, je ne vois pas comment on peut aller plus vite dans la réduction de notre parc nucléaire. On a une tribune là de vos amis de la droite, Xavier Bellamy et Bernard Accoyer, qui disent nucléaire, attention, on est en train de se suicider, parce que le nucléaire, c'est effectivement une source d'énergie, mais c'est aussi une filière très importante. Et donc, manifestement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sous la même ligne que le président Macron. C'est quoi la bonne trajectoire ? France Stratégie nous dit cette semaine, en 2030, on va avoir des gros problèmes récurrents d'approvisionnement d'électricité.
Écoutez, avec le président de la République, on n'a pas la même vision et ni la même culture du nucléaire, tout le monde le sait. Simplement, on s'en est parlé et on est ensemble sur la stratégie. La stratégie, c'est quoi ? On a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui dit que nous allons baisser la part de nucléaire de 70%, grosso modo 70% aujourd'hui, à 50% en 2035. Donc ça nécessite la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. À partir de 2035, il va y avoir un choix qui devra être fait. Est-ce que on continue à baisser la part du nucléaire pour arriver à un scénario qui serait quasiment totalement sur des renouvelables, ou est-ce que on relance une nouvelle programmation avec des nouveaux réacteurs nucléaires? Et ce choix-là, on doit le faire maintenant pour pouvoir... Enfin, on doit le faire à partir du prochain quinquennat pour pouvoir le mettre en place à partir de 2035. Tout ça, c'est des investissements, c'est long, etc. Ces deux options, il faut qu'elles soient renseignées. Il faut qu'on regarde. Moi, j'aime bien entendre les opinions des uns et des autres. On peut tous avoir nos opinions. C'est très gentil. Moi, ce que je veux, c'est avoir des faits techniques. Est-ce que techniquement, ces deux options sont possibles au regard justement de nos besoins en électricité, au regard, etc. Donc, mon travail, et en total accord avec le président de la République et le Premier ministre, c'est de faire en sorte que ces deux options soient renseignées techniquement, scientifiquement, pour que, quand le choix devra être fait entre les deux options, on ait un réel choix. Et pas qu'on nous dise, comme trop souvent ça a été fait, « Ah, mais on ne peut pas faire autrement ». Non. On peut toujours faire autrement. Simplement, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de regarder les options. Et on aura une première étape, un premier jalon qui sera posé en début de semaine prochaine, puisque l'Agence internationale de l'énergie, donc ils ne sont pas des gens complètement farfelus, hein, qui sont des gens qui sont reconnus pour leurs compétences, va rendre un rapport avec Réseau Transport d'électricité, RTE, où ils vont nous dire justement, quelle est la faisabilité si techniquement ces deux options sont faisables. Donc on aura déjà un premier élément de réponse d'ici mardi prochain.
Barbara Pompili, vous parlez de la difficulté de faire des choix et de l'importance de les renseigner. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé avec Stocamine. Alors, c'est un site de déchets, d'une mine de potasse. Il était question du déstockage de ces déchets. Ça se passe dans le Haut-Rhin. Vous avez tranché les 42 000 tonnes de déchets dangereux qui sont enterrés à 550 mètres de profondeur depuis 1999 vont y rester. La question, c'est celle de la nappe, la protection de la nappe d'Alsace. On parle d'eau, donc tout ça paraît très compliqué. En fait, c'est très simple. Il y a des déchets extrêmement dangereux enterrés très profond, tout près de l'eau qu'on boit. Donc, voilà, pour résumer les choses. Mm-hmm. Vous avez dit, on ne va pas les extraire. Pourquoi ?
Alors d'abord, moi, je suis comme tout le monde. Cette nappe, qui est la plus grande nappe d'Europe, elle est très importante, il faut la protéger. Première base. Deuxième base, on a des déchets qui sont ce qu'on appelle des déchets ultimes, qui ont été mis dans une mine... qui sont des déchets qu'on ne peut plus rien en faire, hein, ce qu'on appelle des déchets ultimes. Donc si on les enlève de là, il faut les mettre ailleurs. Au départ, il était prévu éventuellement de pouvoir les retirer. Il y a eu un incendie dans cette mine qui fait que tout a été bloqué. Et puis, depuis des années, ça tergiverse. Il y a eu des études qui ont été faites. Moi, j'arrive maintenant, je reprends le dossier maintenant. Et quand je regarde les études qui sont faites, je me rends compte que, un, on a retiré ce qui était le plus dangereux. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on a retiré ce qui était notamment du mercure, qui là était très dangereux pour la nappe. Donc, le plus gros du très dangereux a été enlevé. Ce qui reste maintenant, c'est plein de paquets. Dedans, il y a quelques très dangereux. Le reste, c'est des paquets qui ont, par exemple, de l'amiante. Donc, ils sont dangereux, mais pas pour la nappe phréatique. Les études que j'ai maintenant me disent... On a la mine qui est en train de se refermer sur elle-même. Ouais. Elle est en train de se refermer, donc on ne va plus pouvoir retirer tout. Donc au mieux, si on en retire, on retirerait un quart de ce qui reste. Dans le quart de ce qui reste, la majorité sera des trucs pas très dangereux. Par contre, si on perd du temps, on ne pourra pas faire les travaux de confinement pour sécuriser cette mine, pour éviter que tout remonte à la nappe. Et en plus, on met en danger la sécurité des mineurs. Parce que moi, c'est bien gentil, mais tous les gens qui donnent des leçons, ce n'est pas eux qui descendent dans la mine, hein.
Non mais pourquoi donc, je vous pose la question aussi, parce que vous l'avez vu hier, c'est très concret, séisme à Strasbourg, ouais. 3,4 sur l'échelle de Richter, c'est pas un énorme séisme, mais c'est un séisme, ouais. Deux répliques, ça a des implications sur cette mine, sur ces déchets, sur la nappe phréatique qui est à côté, ça n'est pas un sujet qui est neutre.
Ça a été regardé, enfin moi, ma priorité absolue c'est de protéger cette nappe, si j'avais le moindre doute sur le fait qu'il fallait absolument retirer ces déchets, je serais la première à le faire, quitte à mettre en danger la santé et la sécurité des personnes qui descendent, je l'aurais fait. Sauf que là, quand je regarde le risque, en fait, le risque est extrêmement faible. C'est-à-dire que même si jamais, d'ici 600 ans, hein, parce qu'on parle de ça, hein, si jamais d'ici 600 ans, il y a quelque chose qui remonte de cette mine, ce sera en termes de proportion par rapport à la quantité d'eau, une proportion de gouttes d'eau, et on serait encore 300 fois en dessous du seuil de potabilité. Donc le risque est infime, infime. Par contre, les risques sur la nappe phréatique d'Alsace, ce n'est pas cela. Le risque sur la nappe phréatique d'Alsace, ce sont des sites industriels avec des entreposages qui sont en train de fuir et qui sont en train, là, en ce moment même, de polluer la nappe. Et là-dessus, comme j'ai pu récupérer un peu de sous, cet argent-là, je vais le mettre pour dépolluer ces sites, pour que la nappe soit protégée maintenant et pas éventuellement dans 600 ans, ou même si elle était polluée dans 600 ans, ce serait vraiment de l'ordre d'une goutte d'eau. Et là, on parle de la taille de la goutte d'eau. C'est ça dont on parle.
Alors tout ça nous amène au projet de loi constitutionnelle que vous défendez. L'idée, c'est d'intégrer à l'article 1er de la Constitution la garantie, enfin le verbe garantir, la préservation de l'environnement. Le Conseil d'État a rendu un avis critique. Le patron du Sénat, Gérard Larcher, vous met un peu des bâtons dans les roues, et l'idée, c'est ce verbe de garantir. Pourquoi est-ce que ça embête tout le monde, l'idée de garantir la préservation de l'environnement ?
Parce que c'est un terme fort. C'est un terme forme et parce qu'on décide aujourd'hui, suite aux travaux de la Convention citoyenne, et moi je rends encore hommage à ces citoyens qui ont fait un énorme travail sur leur temps libre, hein, n'oublions pas, hein, c'est des gens qui ont une vie à côté, de mettre ce symbole de la protection de l'environnement, de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique à l'article 1er de notre Constitution. C'est-à-dire que ça y est, maintenant, enfin... on met cet enjeu énorme dans notre socle de valeurs. Et c'est absolument énorme. Après, le verbe garantir est un verbe qui dit qui donne un sens de l'action. C'est-à-dire que là, il doit y avoir une action positive de l'État, des collectivités, de tout le monde pour qu'on y arrive ensemble. Donc oui, c'est un terme fort.
Avec une obligation de résultat, c'est ça le problème en fait.
Ben oui, mais c'est une obligation de résultat. Mais on essaye justement de bien mettre, et on a mis dans l'exposé des motifs, que évidemment qu'on ne peut pas avoir un résultat du jour au lendemain. On aura encore des pics de pollution, même s'il y en aura de moins en moins, puisqu'on agit pour cela, puisqu'on met en place des zones de faible émission dans les villes, etc. Mais on en aura encore. La question, c'est est-ce qu'on met les moyens appropriés pour y arriver ? Est-ce qu'on met suffisamment ? Il va y avoir des débats là-dessus. Le Parlement doit faire son travail, puisque pour changer la Constitution, il faut que l'Assemblée et le Sénat adoptent le texte dans les mêmes termes. Ensuite, le président de la République a décidé que nous ferions partir ce texte au référendum. On aurait pu le laisser au Congrès, on le fait partir au référendum. Pourquoi ? Parce qu'on veut mobiliser toute la population.
Alors justement,
Alors, mobiliser toute la population, oui, sauf que dans Le Parisien, cette semaine, on a publié un sondage, IFOP, qui indique que 64%, donc une grande majorité des Français, n'iraient pas voter. Ils trouvent que c'est bien gentil, hein, ceux qui iront, ils voteront pour. Mais simplement, ça ne les intéresse pas tellement, et ça, en tout cas, ça ne les mobilise pas, du moins pour l'instant. Comment, y a du boulot pour vous encore, alors ?
Oui, mais j'ai vu ce sondage qui fait plaisir quand même, parce qu'il montre quand même que tous ceux qui vont voter, une immense majorité, je crois qu'on atteint 80%.
Oui, mais c'est même voter pas pour un Français.
Oui, mais ce qui veut dire quand même qu'on est sur un sujet qui maintenant est un sujet qui mobilise la population. Et pour les mobiliser aux urnes, il faut que la campagne commence. Elle n'a même pas commencé. Là, vous parlez d'un hypothétique référendum qui n'a même pas encore eu le temps de s'installer.
Il a été annoncé à grand renfort de publicité par le chef de l'État.
Franchement, je pense que quand on aura fait la campagne, il y aura beaucoup plus de gens qui se mobiliseront pour ce référendum.
Prenons rendez-vous.
Encore une fois, c'est le moment où la population de notre pays va dire oui à l'écologie et oui à ce que tous ensemble, on porte cet ambitieux combat, et on en a parlé tout à l'heure, on a vu tous les enjeux que ça représente.
Oui, mais alors justement, est-ce que vous ne risquez pas d'affronter des vents contraires ? Parce que notamment, on voit par exemple que Cyril Dion, qui a été un des grands promoteurs et un des grands animateurs de cette convention climat, a dit finalement, on est très en dessous des ambitions initiales. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une forme de démobilisation ? Parce que finalement, la loi ne sera pas à la hauteur des ambitions de cette convention climat.
D'abord, j'espère que Cyril Dion nous aidera à porter ce référendum, puisque là, on est sur la transcription de ce que demandent les citoyens. La loi, ce n'est qu'une partie de tout le travail qui a été fait par la convention citoyenne. J'insiste beaucoup, c'est à peu près 40% des propositions. Vous me demandez, est-ce qu'il faut aller encore plus vite, encore plus loin ? Je suis écologiste. Donc, depuis toujours, je pense qu'il faut aller plus vite, plus loin. Je suis parfois un petit peu agacée quand j'entends des objections qui sont des objections qui ne doivent plus avoir lieu d'être, des gens qui ont peur et du coup qui freinent des cas de fer. Donc après, mon travail, c'est soit juste d'être agacée, soit de me battre pour lever ces objections. Donc je rencontre, moi, tout le monde. Je rencontre les syndicats, je rencontre les chefs d'entreprise, je rencontre évidemment les citoyens, les associations, pour leur dire, bon, qu'est-ce qui pose problème ? On va essayer de trouver des solutions. Moi, je n'en peux plus du langage de certains écologistes, qui est soit un langage jusqu'au boutiste, c'est tout ou rien, soit un langage, de toute façon, on ne va pas y arriver. Non. Moi, on est sur des enjeux qui vont avoir des conséquences sur notre vie quotidienne dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, qui vont toucher nos enfants. Moi, je suis mère de famille. Il est hors de question que je baisse les bras dès qu'il y a le premier obstacle. Alors oui, il y a eu des arbitrages qui font qu'on a dû faire quelques compromis. C'est normal. Mais moi, ce que je veux, et ce qui va advenir, c'est que cette loi, elle va changer la vie des Français, elle va entamer des changements profonds dans de nombreux domaines. Il y a encore quelques années, est-ce qu'on envisageait deux secondes qu'il n'y aurait plus de vol en avion quand il y a une alternative en train ?
On va en reparler dans quelques instants, Barbara Pompili. Justement, non, mais je voudrais qu'on parle des freins aussi avec vous.
Mais oui, voilà, parce que les obstacles pour aller plus vite et plus loin, ils sont où les plus gros ? Votre prédécesseur, Nicolas Hulot, n'avait de cesse de dénoncer les lobbies. Si on prend un exemple très précis, la Convention citoyenne sur les véhicules SUV, hein, les grosses voitures, proposait une taxation assez générale pour vraiment en diminuer le nombre, la vente, la production. Or, le projet, le compromis, en réalité, est très très faible et il épargne notamment les véhicules, les SUV les plus courants, qui sont en fait tout aussi polluants, et notamment ceux de Renault et de Peugeot. Est-ce que là, vous ne cédez pas devant les constructeurs ou devant d'autres lobbies ?
La question, c'est toujours quel est le but. Pour moi, le but, c'était un, d'expliquer qu'il y avait un problème avec les véhicules qui sont trop lourds. Parce que c'était pas très compris, en fait. Parce que les gens disaient, bah oui, mais enfin, donc ils émettent plus de CO2, donc il y a déjà des taxes sur le CO2. Non, un véhicule qui est trop lourd, qui est plus lourd, c'est un véhicule qui demande beaucoup plus de matériaux pour le construire. Donc déjà, ça utilise plus d'un point de vue environnemental. Ça abîme les routes parce que c'est plus lourd. Ça prend de la place.
C'est bien ce qu'ils ont dit, les conventionnels. Donc c'est eux qui n'ont pas bien compris.
Donc il y a eu cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, il fallait l'avoir. Deuxièmement, il fallait envoyer un message en constructeur en leur disant, arrêtez de continuer à développer ces gammes-là, puisque ce n'est pas dans l'optique de ce qu'on veut faire. La réaction des constructeurs, y compris sur une taxe qui est moins forte que celle qui était annoncée,
vous l'avez entendu.
Les constructeurs ont tous dit « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible », etc. Même si la taxe, effectivement, n'est pas aussi élevée que ce que demandaient les citoyens. Oui, mais les gens qui achètent les gros SUV, ces gros SUV dont on parle, dont là, on n'est pas à 20 000 euros.
20 000 euros.
Ça montre que je suis née un peu plus tôt que certains d'entre vous. C'est des gens qui ont les moyens. Quand on achète un véhicule qui coûte 40 000, 50 000 euros, ce sont des gens qui ont des moyens et qui ont une taxe un peu plus forte,
le véhicule qui est le plus vendu en 2020 en France, c'est le véhicule d'une marque française qui est un SUV. Hein. C'est pas un véhicule qui coûte une fortune. Il est acheté par les Français en immense majorité. C'est le véhicule le plus vendu.
Mais il va déjà avoir des malus. Il va déjà avoir des malus, puisqu'on a des malus en fonction du CO2. Le malus poids est un malus supplémentaire qu'on a porté et qui était un signal politique. On aurait pu le mettre plus bas, mais après, la question était de savoir est-ce qu'on va pouvoir le mettre. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on le mette pour que ça fasse réagir. Encore une fois, le fait que les gens prennent conscience d'un certain nombre de choses, c'est ça qui agit le plus, parfois même plus que des normes. Quand on voit les citoyens de la Convention citoyenne, c'est juste un point qui m'avait énormément marqué. Ce sont des gens, comme vous et moi, qui avaient leur vie et qui n'étaient pas forcément plus sensibilisés que ça à la question écologique. Quand ils sont arrivés, ils ont fait leur première session, ils ont entendu une scientifique, plusieurs scientifiques, mais dont une, qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, qui leur a expliqué ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire des faits, pas des opinions, des faits. Ils se sont dit, ils nous le racontent, hein, ils se sont pris une claque dans la figure. À partir de ce moment-là, ils ont pris des décisions et ils ont fait des propositions qui sont plus ambitieuses que des propositions d'ONG qu'ils font depuis des années. Ça veut dire qu'une prise de conscience, ça a parfois plus de conséquences que toutes les lois, tous les règlements.
Je voudrais qu'on soit concret, qu'on avance, parce que le temps file vite. L'avion, justement.
Parmi leurs propositions, justement, bah, vous les dites, éclairer ces 150 citoyens. Eux, ils ont proposé l'arbitrage, c'est-à-dire que, en effet, remplacer, supprimer un vol dès lors qu'on avait un trajet en train qui ne durait pas plus de 4 heures. Vous avez réduit cette alternative à 2h30, ce qui fait que très concrètement, Paris-Lyon, ça s'est terminé, très bien, mais Paris-Marseille, Paris-Nice, etc., tout cela peut durer encore en avion. Est-ce que là encore, vous ne cédez pas, enfin les compromis ne sont-ils pas trop importants?
Bon, est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui le fait? Est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui le fait? On est les premiers à le faire.
La Suède le fait aussi.
Oui, on n'a pas tout à fait la même organisation de pays que la Suède. Après, on a aussi, nous, des lignes qu'on appelle d'équilibre du territoire, qu'on veut garder parce qu'on a des territoires très enclavés et où on n'a pas d'autres solutions pour l'instant. Donc, 2h30, c'est un équilibre qu'on a trouvé, c'est un équilibre que je défends. Ça nous permet d'envoyer un signal fort et ça permet aussi de développer, parce qu'on y travaille beaucoup avec les transporteurs aériens, mais aussi avec la SNCF, d'essayer de travailler sur l'intermodalité. C'est-à-dire que quand vous voulez aller, par exemple, de Bordeaux... Bordeaux, c'est pas un bon exemple. Parce que Bordeaux, c'est fait. Bordeaux, vous avez une ligne en 2 heures en train. Donc c'est réglé
après,
pour
quand
Bordeaux.
Vous allez prendre l'avion à Roissy, enfin, c'est compliqué, vous voyez.
Eh bien non, justement, ce qu'on veut, c'est développer l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on puisse prendre un TGV qui nous emmène directement dans l'aéroport. Et c'est ce qui se passe pour Roissy. Donc, et qu'on puisse prendre un billet, vous prenez un billet et vous avez directement dans votre billet le billet de TGV et le billet d'avion. Ça s'appelle l'intermodalité, faire en sorte que ce soit pratique, que les gens ne soient pas obligés de prendre un avion puis un avion, mais qu'ils puissent prendre un train, un TGV, qui prenne autant de temps, hein, parce que ça ira peut-être plus vite. Un TGV, on arrive directement dans l'aéroport grâce au TGV, et puis après, on peut aller prendre son avion tranquillement, et on facilite les choses pour que ce soit pratique. Voilà des éléments qu'on met en place et sur lesquels on est en train de travailler grâce à cette loi climat résilient.
Barbara Pompili, l'Assemblée se penche à partir de mardi sur la maltraitance animale. Il y a une proposition qui fait écho dans une partie de la population. Les gens ne sont peut-être pas très au courant du calendrier parlementaire. En revanche, ils suivent les réseaux sociaux, la télévision, ils connaissent Hugo Clément et son référendum pour les animaux. Il y a plus de 900 000 personnes, vous le savez, qui ont souscrit déjà à cette initiative. Il y a 6 propositions. Je vais les rappeler, c'est très rapide dans ce référendum. Interdiction de l'élevage en cage, des élevages à fourrure, interdiction de l'élevage intensif, de la chasse à cour, du déterrage et des chasses dites traditionnelles, interdiction des spectacles avec animaux sauvages et la fin de l'expérimentation animale. Est-ce que c'est impossible d'adopter ces mesures telles quelles aujourd'hui ?
Alors, la première chose, quand on voit le succès de tous ces appels, c'est que on voit qu'il y a un rapport, notre rapport avec l'animal qui est en train d'évoluer. Il y a des pratiques qui étaient encore acceptables il y a un certain nombre d'années qui aujourd'hui ne le sont plus. On arrête de voir aussi l'animal juste comme un objet qu'on utilise. Il y a déjà eu des améliorations dans la loi.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre les propositions telles quelles, vu qu'elles sont de bon sens, a priori ?
On a besoin d'un débat public sur un certain nombre de ces annonces. Il y en a quelques-unes que j'ai déjà prises, moi. J'ai fait des annonces en septembre sur l'arrêt
des
animaux sauvages dans les cirques itinérants, parce que c'est incompatible, et là, on a des éléments scientifiques qui nous le montrent, c'est incompatible avec tout simplement leurs impératifs biologiques. La question des élevages de fourrure, de visons qui vont être arrêtés. Le fait aussi de labelliser les zoos qui nous permettent de travailler sur la biodiversité, c'est un point aussi.
Mais quels sont les freins principaux
important.
Pour comprendre les choses clairement
et les delphinariums aussi. Enfin bon.
Dans ces propositions, quels sont les freins? Qu'est-ce qui vous empêche de dire demain, ben ça on adopte?
Parce que moi, quand on prend des décisions comme celles que j'ai prises sur les différents thèmes que je vous ai cités, ça a une implication derrière. Il y a des gens qui travaillent, il y a des filières. Et donc, balancer comme ça, on va tout interdire, sans travailler en amont et pendant tout ce temps avec les professionnels pour travailler sur leur reconversion, pour retravailler sur les équilibres économiques, moi je veux bien, hein, mais ce n'est pas responsable. Là, sur les animaux de cirque, par exemple, on a des centaines d'animaux qui du coup vont se retrouver, qu'on va devoir gérer. Où est-ce qu'on les met? Comment on crée des sanctuaires? Comment on les définit? Qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça prend du temps. Et donc moi, je préfère le faire les uns après les autres quand c'est mûr. Donc sur les mesures que j'ai annoncées, c'était mûr. Et donc on s'en occupe et on fait ça sérieusement. Moi, je ne veux pas être la ministre qui fait des annonces et qui après laisse les choses se faire n'importe comment. Je veux que les annonces soient suivies d'actes responsables. Après, il y a d'autres mesures qui sont proposées dans ce référendum, qui vont faire l'objet de débats parlementaires, eh bien très bien que le débat parlementaire et que le débat public s'en emparent, et puis quand il y aura des décisions à prendre, elles seront prises.
Barbara Pompili, un des premiers décrets signés par Joe Biden, le nouveau président américain, ça a été d'annoncer le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. J'imagine que vous êtes ravis, mais concrètement, ça va changer quoi ?
Oui, d'abord, c'est une excellente nouvelle. Depuis 4 ans, on avait un président qui était en train de détricoter tous les engagements des États-Unis sur les questions environnementales. Donc là, on a un président qui arrive, qui prend un certain nombre de décrets, dont l'un des premiers est de revenir dans l'accord de Paris. Il se réassoit autour de la table, c'est absolument essentiel. Mais il prend aussi quelques décisions qui sont assez emblématiques. Le fameux oléoduc Keystone, qui était un oléoduc qui partait de l'Alberta pour transporter donc du pétrole. Bon, bah ça y est, il a dit qu'il l'arrêtait. Et d'ailleurs, ça pose des problèmes avec le Canada. Donc il prend des décisions lourde. C'est très bien. Il lance un plan de relance. Un plan de relance qui suit un peu le même principe que le plan de relance européen que nous avions lancé. Donc là, si on a un pays de l'envergure des États-Unis qui revient autour de la table et qui prend des décisions importantes sur le climat, qui fait un plan de relance sur la transition écologique, on en avait besoin et c'est très bien. Et on voit que tout ça entraîne un effet d'entraînement intéressant. La Chine qui fait des annonces, le Japon qui fait des annonces. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est relancer le partenariat transatlantique entre l'Europe et les États-Unis pour prendre des mesures encore plus fortes. Là, les États-Unis travaillent sur une mesure que nous, on porte au niveau européen qui s'appelle mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Grosso modo, c'est une sorte de taxe carbone aux frontières. Ouais. Pour que tous les efforts qu'on demande à nos entreprises de baisser leurs émissions de CO2 ne soient pas réduits à néant parce qu'on fait des importations, par contre, de pays où là, par contre, on ne prend pas ces précautions-là. Mais ça, c'est un travail qu'on est en train de faire. Si les États-Unis le font aussi de leur côté, avec le Canada, etc., ça nous donnera encore plus de force. Donc ce partenariat transatlantique, pour, que j'appelle de mes voeux, c'est voilà, le début d'une relance de cette dynamique qui, que nous avions fait perdurer en Europe, notamment grâce au président de la République, avec ses One Planet Summit, etc., et qui là va reprendre encore plus de vitesse, et c'est une bonne chose vu les engagements qu'on a à prendre pour le climat.
Aux dernières municipales, il y a une certaine vague verte avec l'élection de maire écologiste à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Poitiers. 6 mois après, comment est-ce que vous jugez l'action de ces nouveaux maires écolos ?
Oh ben, grosso modo, ils essayent de mettre en place des mesures qui sont bon, différentes selon les territoires. Mais je vois par exemple qu'ils travaillent là, au développement des zones de faible émission, qui sont des zones qu'on développe pour faire baisser les émissions de polluants dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'engager dans l'écologie réelle, comme le font beaucoup d'autres élus, et que je soutiens évidemment. Je les ai rencontrés, hein. Les uns
chacun
et les autres, quasiment tous, et je leur ai dit, comme j'ai dit aux autres maires, vous voulez faire de l'écologie, je suis à vos côtés et on va se battre
mais
tous ensemble.
Mais ils en font plus que les autres, eux ?
Ils en font certains plus, mais il y en a qui avaient commencé avant. Donc, mais globalement, ils représentent un mouvement de fond qui est que on ne peut plus passer à côté de ce sujet de l'écologie. Et moi, je les accompagne parce que les histoires politiciennes, franchement, ça me passe au-dessus. Je crois que l'enjeu est trop énorme. Et donc, je les accompagne et je leur dis, vous avez besoin de moi. J'ai encore vu Éric Piolle l'autre fois. Ouais. Je lui ai dit, on peut avoir des débats, mais on a un combat à mener ensemble, chacun à sa place. Et dans la période de crise que nous vivons actuellement, qui est une période très difficile, où on peine, on se dit, bon sang, on a besoin de voir le bout du tunnel. Moi, je m'occupe de ces questions-là avec tous ceux qui veulent le faire pour dire qu'on est en train de préparer notre avenir écolo et que dans quelques années, et même déjà maintenant, on est en train de gérer cette sortie de crise pendant que la crise écologique, on est en train d'y travailler.
À propos d'histoire politicienne, ce qui s'est passé à Marseille au départ, une coalition avec des Verts, justement, Michel Rubirola, qui est élu maire de Marseille, et puis quelques mois plus tard, il se retrouve avec un pilier, disons, du PS, Benoît Payan. Comment avez-vous ressenti cette affaire-là politique ?
Oh, j'étais un peu attristée de voir que Michel Rubirola n'essaye pas de continuer.
Elle aurait pu.
Et je n'en sais rien, parce que je ne suis pas dans sa tête. Et il faut aussi être capable de connaître ses limites. Donc, si elle a considéré que ces limites-là étaient atteintes, bien, je respecte totalement sa décision. Maintenant, elle reste quand même dans l'exécutif. Ils ont envie de mener des politiques écologiques. Et de la même manière que pour d'autres, moi, je serai à leur côté pour les aider et pour les pousser.
Merci beaucoup, Barbara Pompili, d'avoir été notre invitée ce midi. Merci, messieurs. Dans un instant, affaire suivante avec Dominique Rizet et Philippe Godin. Je vous retrouve à 18h. Eric Ciotti sera mon invité. Et à 19h, c'est le président du Conseil scientifique. Je recevrai Michel Delfraissy. À tout à l'heure.